Et vous écoutez France Culture. Rien de grave, juste une étrange sensation, faite d'espoir et de conviction, l'histoire. Michael Mention. Pas d'erreur, c'est mauvais changement. Mauvais genre qui fait entrer ce soir dans la circonférence de son cercle noir, le romancier Michael Mention, auteur aux éditions Stéphane Marsan de Power, un roman bélier de près de 500 pages sur les très violentes et ferventes heures du Black Power Party, chronique également en seconde partie d'émission de Greg Hiles et du site d'Antoine Michel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre qui est heureux de retrouver Michael Mention, bonsoir.
Bonsoir, très content de revenir aussi.
Ben voilà, la précédente fois c'était pour éclairer notre lanterne,
c'était pour La Voix Secrète, je crois, paru chez 10-18.
Voilà, c'était pour évoquer Lassner et Vidocq.
Exactement, plus Lassner que Vidocq.
Plus Lassner que Vidocq, absolument, parce qu'en effet, avec Michael Mention, on est toujours confronté à l'histoire avec son grand compas et sa grande hache, puisqu'on va être aussi bien dans le Paris du 19e que dans l'Angleterre de Thatcher, qu'au Liberia, et qu'avec Power. Donc il sort chez Stéphane Marsan avec l'Amérique des années 60 et début 70, celle du Black Power Party. Je serai également avec Sixtine Audebert, bonsoir.
Bonsoir François.
Quelle petite actualité, un petit souvenir.
Oui, bien sûr. Si vous voulez absolument savoir, je vous conseille d'aller voir Gang of Witches, une exposition qui réunit différentes artistes féministes, un militantisme pailleté et une écologie assez fleurie que vous pourrez retrouver à l'espace Léon Coeur Marais, donc dans le Marais parisien. Et si vous voulez un avant-goût, vous pouvez aller voir sur YouTube le hymne We Are Gang of Witches, une espèce de rap féminin hallucinant, halluciné, tout à fait pour Céline Duchesne.
Moi, je n'ai vu que le clip, mais je n'ai pas été encore à l'exposition. Ce que je serais tardé de faire.
Très bien, nous allons donc en parler. Il y a la Hubert Prolongeau que je salue.
Il est là et il vous salue aussi.
Hubert Prolongeau qui a vécu un des moments forts de son existence puisqu'il a visité le musée de l'homme.
Le palais de Tokyo,
autant pour moi.
Nu. En tant que journaliste, comme un mais en adoptant le faux dress code qu'il y avait. Et donc, c'est assez marrant parce que ce qu'on a peu dit, c'est le musée lui-même, le palais de Tokyo, qui a eu cette idée. Effectivement, on n'a jamais autant parlé de ce musée dans le monde entier puisqu'il y a eu des papier au Japon, il y avait un envoyé spécial du New York Times.
C'était la bonne idée pour faire parler de son livre.
Exactement, et l'idée était donc d'aller se promener dans le plus sympa pareil parmi les œuvres. Alors il y en a qui ont beaucoup théorisé l'expérience en voyant une mise en abîme du corps vulnérable face à des œuvres qui effectivement mettaient en avant une actualité douloureuse. Pour la plupart des gens, c'était un abîme plutôt drôle. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'inverse, des manifestations naturistes de vieux routiers où généralement il y a une prédominance masculine assez forte, une moyenne d'âge assez élevée. Là, il y avait des tas de jeunes novices qui étaient très amusés par ça.
Je
suis émoustillé par la modification sociologique du rapport à la nudité qui s'exprime ainsi. Et donc, il y avait des tas comme ça de jeunes gens alors, qui étaient là, qui faisaient un peu les malins sur le trottoir avant, et puis qu'on voyait au moment où il fallait passer à l'acte, légèrement hésitant. Et puis voilà, comme tous ceux qui ont essayé, la nudité, quand elle est collective, s'oublie très très vite. Donc après, ça s'est très bien passé. Ça finit par un moment un peu surréaliste. On était sur la terrasse du palais, face à la tour Eiffel, dans ses habits de lumière, elle, et avec des gens un peu étonnés qui de temps en temps pointaient, puisque l'immeuble le plus haut de l'endroit, qui pointaient pour regarder quelle était cette étrange tribu qui s'agitait ainsi sous ses yeux.
Des vieux routiers du nudisme. Le vieux routier du nudisme étant un homme qui pilote son camion nu.
C'est effectivement
entièrement d'accord, mais on peut recommander effectivement la communication de France Culture, dont ce serait les émissions nues. Nous allons en parler... Alors, en Paul Rey, on va organiser la prochaine prestation extérieure de Mauvais Genre. Dans cet état, est-ce qu'on était nu à Cannes, monsieur Rouillet?
Ça dépend qui, mais cette année, il fallait plutôt faire attention parce qu'on était dans une vague post-Weinstein, anti-harcèlement, avec chaque festivalier se faisait remettre le premier jour un numéro de téléphone en cas de harcèlement.
En avez-vous usé?
Eh non. Car en fait, sans doute qu'il y a une certaine terreur autour de moi et ça fait fait fuir les harceleurs et je n'ai été témoin de rien et victime de rien du tout. Le palmarès, j'en ai été un peu victime parce que c'est très, justement, très politiquement correct et ça a donné une vitrine à Cannes qui n'est pas caractéristique de ces 12 jours qu'on a passé. C'était, en fait, c'était un très bon cru, y compris du point de vue des mauvais genres, mais tous mes films préférés ont été chassés du palmarès, c'est assez
J'espère
dommage.
J'espère qu'il n'y a pas de lien, parce que pour l'an prochain, vous allez être redouté.
Je pense notamment au film de Lee Chang-dong, Burning, qui raconte une histoire de disparition de jeunes femmes, et ce qui est très fort dans le film, c'est que le mystère du scénario contamine la forme. C'est-à-dire que le spectateur se demande ce qu'il est en train de voir, puisque le héros est un jeune écrivain, on se demande au bout d'un moment si tout ce qu'on voit n'est pas un jus de crâne du type en train d'écrire son roman. Le film a fait vraiment l'unanimité sur la croisette, à part pour le jury, tout le monde a trouvé ça bien. Il y a aussi le deuxième film de Cyril Serebrennikov qui n'était pas venu présenter parce qu'il est assigné à résidence en Russie, donc son film a pu être là, mais pas lui, qui s'appelle L'Étau en russe, L'été en français, et qui est une sorte de biopic de Victor Tsoï, qui était le grand rocker russe pré-perestroïka. Donc, une espèce d'évocation de la Russie, de l'Union soviétique, Leningrad de 1980, qui est tout à fait saisissante. Il y avait le nouveau film de Jazanke, qui s'appelle Les Éternels, qui raconte une épopée romanesque, une femme de mafieux sur 17 ans, c'est totalement palpitant. Bon, il y a quand même le prix d'interprétation masculine à Marcelo Fonte pour Dogman de Matteo Garonne, qui est une vraie série noire tout à fait intéressante. Un toiletteur pour chien qui est ami d'enfance avec un gros costaud dealer un peu abruti. Bon, tout ça tourne un peu mal. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet acteur, Marcelo Fonte, que Garonne a été chercher dans un centre de social, etc., a presque la tête de ses chiens, tout en dents et tout. C'est très spectaculaire. Puis il y avait toutes les sections parallèles, border au certain
regard. Et Lars von Trier.
Lars von Trier, hors compétition. Un film qui est le pendant, en fait, de la version longue de Nymphomaniac, qui est une confession. Alors, pas les confessions d'obsédé sexuel, mais d'un tueur psychopathe à un personnage qu'ils appellent Monsieur Verge. Et on découvre Monsieur que Verge. Ça n'a rien à voir avec le sexe, mais c'est plutôt à chercher du côté de l'Énéide et de Dante.
De belles réjouissances
alors,
à venir.
Il y avait quand même un truc dont on peut profiter en ce moment à Paris, c'est que Christopher Nolan était venu avec sous le bras la copie 70 mm de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, qui fête ses 50 ans, copie neuve tirée d'après le négatif d'époque. Et cette copie-là, on peut la voir pendant 2 semaines à l'Arlequin à Paris. Et je vous recommande vraiment, parce que, évidemment, j'ai été la voir là-bas, à Cannes, et c'est extraordinaire. C'est très différent de l'expérience.
La masterclass de Christopher Nolan.
J'ai eu aussi ce privilège de passer 1h30 avec Nolan, et de pouvoir poser toutes les questions qui me brûlaient depuis un certain temps.
Il 50
faudra,
ans.
Il faudra vraiment qu'on fasse... Non, parce que là, c'est la masterclass Nolan était vraiment sur le cinéma de Nolan. Il faudra vraiment qu'on fasse un spécial mauvais genre, Christopher Nolan. Mais là, la projection du 2001, c'était tout à fait enveloppant. Et donc, je recommande cette expérience aux auditeurs de France Culture.
Merci, Philippe. Un départ qu'il nous faut mentionner, surtout en ce jour où nous traitons essentiellement du roman historique et du roman noir. Avec vous, Hubert Prolongeau, c'est la disparition de Jean-François Parot.
Voilà, Jean-François Parot qui, en fait, incarnait un peu le polar historique, qui est un genre dans lequel il y a de vraies réussites, il y en a même des supérieures à celle de Parot, je trouve, littérairement, mais qui peine beaucoup à s'imposer, qui est, on ne sait pas pourquoi, contaminé par un côté un peu ringard, par un côté surtout souvent exercice de style, c'est-à-dire leçon d'histoire déguisée, qui était le péché mignon dans lequel Parot tombait parfois, mais pas tout le temps. Il a en tous les cas créé avec Nicolas Le Floch un personnage qui est devenu un peu le porte-parole de toute une école, qui a connu un grand nombre de traductions, qui a connu l'adaptation d'une série télé, à une époque où la télé s'aventure plus beaucoup dans le téléfilm en costume.
Des perruques pagans.
Donc voilà,
que nous
effectivement,
et que nous saluons.
Et dont l'univers est quand même très différent de celui de Parot. Il y a une adaptation là qui est une vraie adaptation. Mais en tout cas, c'était de la belle ouvrage, comme on dit, et il y en a eu 14, Nicolas Le Floch. Parot n'a jamais voulu écrire autre chose. C'est un personnage à l'histoire plus romanesque que presque que ses livres, puisqu'il était lui-même abandonné par son père à la naissance, qu'il a été élevé par une monteuse qui avait travaillé avec Jacques de Baroncelli en particulier, et donc les après-midi elle le laissait au studio de Boulogne où il faisait des jeux de construction avec des vieilles bobines. Et puis il a une carrière de diplomate en Afrique. beaucoup. Il a débuté au consulat de Kinshasa, il a fini ambassadeur de Guinée-Bissau de 2004 à 2010, et coïncidence amusante, vous savez, la Guinée-Bissau est ce petit pays encastré dans le Sénégal, et à l'époque c'était Jean-Christophe Ruffin qui lui était ambassadeur au Sénégal. Donc il y avait une fleur qu'on jugera plus ou moins fine, mais de la littérature littéraire et populaire française qui était là, regroupée dans ce double territoire.
Michael Mention, vous êtes lecteur, Jean-François Parot, Nicolas Le Floch, des Lumières Noires, si j'ose dire.
J'en ai lu quelques-uns, mais pour dire la vérité, l'essentiel de ma culture littéraire, elle concerne plus, si je m'intéresse plus aux bases, on va dire que j'ai vraiment commencé avec, comment il s'appelle, Giono, ouais. Camus, Stephen King, Elroy un petit peu, mais j'y suis venu tardivement à Parot, justement par rapport à ce que vous évoquiez, ce côté peut-être un peu leçon historique, leçon d'histoire, que justement j'ai veillé à pas reproduire dans mon unique polar historique, mais voilà, je mesure quand même l'importance de Parot dans la littérature historique française.
Voilà, c'était le coup de chapeau de mauvais genre à Jean-François Parot. Merci messieurs, l'heure est venue pour nous d'ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres et la lettre, ma chère Céline.
La lettre K. La lettre K comme Kunst, Fleur Kunst.
On peut se laisser aller. Au début, non. Quand j'ai commencé à faire du collage, j'avais du mal à découper dans les livres, dans les magazines. C'était sacrilège. On m'a toujours appris qu'il fallait pas le faire. Donc, c'était vraiment transgressif. Et puis, au fur et à mesure, on se laisse aller. Et voilà, de faire glisser la lame de ses ciseaux dans le papier, c'est juste un grand plaisir. Oui, c'est. J'avoue que je suis un peu accro, oui. Et puis l'odeur des papiers. Selon les époques, selon les encres, je dois respirer un peu d'ailleurs quelques produits chimiques, j'imagine, mais il y a des odeurs, quand on met la colle aussi, parfois l'odeur change. Tout ça, c'est un petit rituel, je dirais, de mes moments de collage que j'aime beaucoup.
Fleur Kunst est artiste collagiste, mais également illustratrice et scénographe. On pourrait aisément s'imaginer Fleur Kunst dans un atelier rempli de papiers, de piles de revues chinées, de magazines des années 50, 60 et 70, ses trois décennies préférées. Il y aurait là une grande collection de ces petits trésors trouvés dans la rue, aux puces, dans les vide-greniers. On voit Fleur, armée de ses ciseaux et de son tube de colle, déchirant, découpant et collant, sauvant ainsi de l'oubli des papiers jetés au rebut. Car Flore a l'art de faire revivre un détail trouvé dans une image, une pose, un sourire tout dedans, dehors, un objet particulièrement graphique. Et notre regard se plaît ainsi à errer dans ces collages butinés au gré de ces associations d'images qui forcent l'imagination. Il y a aussi ce livre dont je suis friande, un petit ouvrage intitulé « Chère Nadine », composé de collages réalisés à partir de photos dénudées de Paris Hollywood, célèbre magazine né après la guerre, magazine de charme.
C'est plutôt des revues érotiques, parce que pornographique, il n'y a pas de. On ne voit pas leur sexe, par exemple, donc ça reste relativement prude, même si c'était suffisamment évocateur, je pense, pour les messieurs qui avaient envie de s'émoustiller. Mais pourquoi ces images déjà? Pourquoi des corps de femmes? Toutes les images de corps de femmes ne me touchent pas comme celle-ci. Et vraiment, au-delà du côté vintage, comme on dit, ça m'a parlé, quoi. Ça racontait beaucoup de choses. En dehors de ces poses parfois un peu idiotes, un peu faciles, que prenaient ces filles dans ces magazines, j'avais envie, par ces découpages, de percer un peu leurs secrets, de savoir qui elles étaient ou de les montrer sous un autre jour. Je les trouve belles, en fait. Je les trouve belles dans leur naïveté, dans leur imperfection. Je les trouve imparfaites. Ça fait du bien parce que, effectivement, les codes ont changé et que surtout pour voilà pour les femmes, même si il y a récemment quelques changements positifs, je dirais, par rapport à tout ça, on revient sur certaines choses, mais malgré tout je trouve que les stéréotypes persistent et là dans ces magazines il y a un aspect plus ou moins féministe, on va dire, même si je me revendique pas féministe, mais il y a quand même cette idée, ne serait-ce que de variété de morphologie, de variété de visage. Il y avait de jolies filles, d'autres un peu moins, mais qui avaient par contre une expression très évocatrice. Enfin, elles avaient toutes quelque chose de pétillant, parfois un peu triste ou mélancolique. Enfin, voilà, il y a plein d'indications et d'émotions qui passaient dans ces images. Vraiment. Et puis de l'humour, quoi. Enfin, c'est drôle. Voilà, c'était léger, ça se prenait pas au sérieux.
L'art du collage de Flor Kunst est à retrouver sur son site internet www.florkunst.tumblr.com. Et chère Nadine, livre de collage érotique s'y trouve, ainsi que toute sa production, érotique oui, mais aussi futuriste ou plus abstraite comme cette superbe série sur les vestiges de la civilisation. Car vaste est le champ d'exploration de cet artiste collagiste. Allez aussi rendre visite au festival Eros Femina, dont la première édition se déroulera à Paris du 14 au 17 juin, un festival consacré à la pluralité des désirs féminins et ses représentations dans l'art et la société. Flore y participe, il y aura des expositions, projections de courts-métrages, tables rondes, ateliers sur la sexualité féminine et spectacles érotiques. Un festival tout jeune à soutenir et qui donne envie, www.erosfemina.com.
Merci Céline pour cette entrée Flor Kunst de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Réaction, Michael Mention, à la publication.
Très intéressant, déjà la voix. La voix était très intéressante. Et puis, moi j'aime bien découvrir.
J'aime bien parler à Hollywood.
Donc voilà. Après, il faut trouver le temps d'aller aux expos. J'ai pas toujours du temps, mais.
Mais il y a Internet pour ça. Et d'autant plus que tout le monde n'est pas sur Paris, comme on le sait bien. Certes. Donc Internet nous permet d'aller chez les uns et chez les autres.
Autre événement à mentionner, Céline ?
Le vendredi prochain, sachez qu'il y aura le deuxième épisode, la deuxième édition de La Nuit Couchée, qui est un festival qui est dédié aux créations sonores et radiophoniques, qui est organisé par l'ensemble Zéro et La Centrifugeuse. Ça se tient à Pau. Et cette année est un petit peu
à
Pau. Cette année est un petit peu particulière parce qu'il y aura deux représentants de mauvais genre qui seront là pour animer cette nuit chaude. Il s'agit de Laurent Polleret qui consacre
Laurent Polleret, celui de la radio ?
Himself, comme on dit en anglais. Qui sera là, je crois qu'il va faire. Il a élaboré une bande-son autour des esprits et des fantômes japonais. Oh, je me tourne vers lui pour savoir si c'est bien vrai. Il oscille de la tête. Et puis alors, Laurent Polleret.
Il n'en fera jamais d'autres.
Laurent Polleret et moi-même, on a aussi une commande d'une heure et demie. Alors nous avons intitulé notre création, Une nuit magnétique, pour faire un clin d'œil sympathique aux nuits magnétiques de France Culture et Alain Weinstein. Et voilà. Et donc là, la thématique est plus consacrée à ces gens qui sont capables de franchir des murs invisibles, de voir au-delà et de nous rapporter une vision du monde un petit peu particulière. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de La Centrifugeuse, c'est la-centrifugeuse.com, et c'est une nuit où vous êtes allongé, vous avez les oreilles bercées par ces sons que nous vous concocterons. Mais il n'y aura pas que nous, il y aura aussi Julien Sarti et le disque qui parle, c'est Clara des Aziz et Maya Bokeh qui sont toutes les deux artistes sonores.
Merci Céline, donc tous à Pau le week-end prochain.
Vendredi 1er juin à partir de 23h et jusqu'à l'aube.
Parfait, merci de tout. Bien maintenant, de 23h jusqu'à l'aube, nous allons filer le Black Power Party dans les rues de l'Amérique nixonienne.
Let's get to it.
Scratch My Back, Otis Redding, un extrait de la playlist utilisée par Michael Mention pour l'écriture de Power, donc son dernier texte romanesque publié chez Stéphane Marsan, parce qu'effectivement, la playlist, alors d'habitude, il y a certains auteurs de romans noirs mettent une playlist pour nous, justement, aider peut-être à mieux percevoir la manière dont le livre a été conçu, dans quelques bouillons de culture, dans quelques bains sonores, il a été élaboré. Et là, votre playlist, Michael Mention, elle a une valeur toute particulière, c'est beaucoup plus que, je dirais, un accompagnement sonore, c'est aussi un des sujets du livre, puisque les paroles des chansons traversent non seulement les discussions des personnages de ce Black Panther Party, mais également les chapitres. Il y avait, c'est plus qu'une bande-son, c'est véritablement une espèce d'armature culturelle, intellectuelle qui travaille le livre en profondeur, tous ces extraits musicaux.
Oui, c'est vrai que c'est la première fois que la musique est aussi importante dans un roman. Pour moi, mais bon, je pense que c'est lié au sujet aussi, qui est un sujet en or par rapport au Black Panther, avec tout ce qui s'est passé au premier plan, ce qui les concerne, et ce qui s'est passé aussi à l'arrière-plan avec le Vietnam, Nixon, l'évolution culturelle, le militantisme, l'activisme de gauche, d'extrême gauche. Et c'est vrai que pour la première fois, on en a parlé avec Stéphane, mon éditeur, de savoir si on pouvait pas mettre la playlist à la fin du roman. Généralement, je la partage sur Facebook. Et là, on s'est dit que vraiment, ce serait peut-être intéressant pour ceux qui ont envie de lister tous les morceaux qui, justement, témoignent de la richesse culturelle de l'époque. Il y a du rock, du folk, du funk, de la soul, du psyché, du prog avec Crimson. Mm-hmm. Voilà.
Alors j'aimerais qu'on revienne à la phrase de vous que j'ai citée en ouverture d'émission et qui est tirée de Power. Rien de grave, virgule, juste une étrange sensation faite d'espoir et de conviction. Deux points, l'histoire. Mais l'histoire avec un grand H. C'est ce qui est à la base de tous ces romans historiques que vous nous avez offerts, Michael Mention, depuis les romans thatchériens, en passant par les romans parisiens, australiens, africains. Est-ce qu'il y a au début un sentiment particulier comme ça, de conviction et d'émotion qui vous fait dire que cette période, ces personnages sont pour vous?
Alors vraiment, j'ai un regard assez distancié par rapport à tout ça. Je sais que je suis passionné par l'histoire. C'est pas la première fois que j'écris sur l'histoire, contemporaine ou non. Mais j'essaye toujours déjà d'avoir un traitement contemporain de l'époque dont je parle. C'est-à-dire que, par exemple, La Voix secrète que j'ai écrit chez 10-18, qui se passe au 19e siècle, j'ai tout fait pour lui donner une portée contemporaine, universelle déjà, de manière à ce que ça parle au lecteur d'aujourd'hui. Mmh. Et en fait, par rapport au Black Panther, j'ai fait pareil. C'est-à-dire que oui, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis, mais l'objectif, c'était quand même que ça parle aux Français d'aujourd'hui, et justement qu'ils aient ce rapport à la fois très intime lié à l'histoire, c'est-à-dire la grande histoire, ce que l'histoire d'aujourd'hui a gardé, des mythes fondateurs, des membres fondateurs aussi justement. Mais en même temps, disons que le vrai enjeu du roman, c'était plutôt de traiter l'histoire du quotidien, c'est-à-dire qui sont les gens qui font les grands mouvements. C'est-à-dire que, bien sûr, on se souvient toujours des leaders, mais je voulais vraiment m'intéresser aux gens qui collent les affiches à 3h du matin, qui arpentent les rues toute la nuit, qui collectent des vêtements, de la nourriture pour les pauvres des ghettos. Donc j'ai à la fois un rapport très proche vis-à-vis de l'histoire, et en même temps très distancié, parce que moi je n'ai pas l'impression d'être dans une démarche d'historien quand j'écris. C'est pour ça que justement la citation justement de Power me touche, parce que je vois très bien à quel moment elle fait référence. Et c'est un moment où les personnages sentent qu'il est en train de se passer quelque chose. Ils ont croisé le regard de quelqu'un. Ils ne savent pas encore qu'ils feront partie d'un grand mouvement, mais ils sentent qu'il se passe quelque chose, et ça relève plus du sensoriel que de l'historique pour moi.
Rappelons quand même que le Black Power Party, 1966, est-ce qu'on peut donner une fin 71 à peu près?
Non, alors ça c'est la fin dans le roman, c'est-à-dire ouais. 70-71, c'est déjà la déliquescence du parti. Non, ce mouvement a continué jusqu'à 80-82. Il était très affaibli, voilà, il avait perdu pas mal de ses membres. Mais on va dire que le point d'orgue, vraiment, c'est de 66 à 68-69. Et puis, très vite, voilà, le parti s'est fait pas mal défoncé, notamment par tous les corps de police, le gouvernement, le FBI. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà.
Absolument. Donc, comme étant une formation quasi paramilitaire de contestation de l'ordre blanc américain, avec à la fois une volonté d'être présent, d'abord et avant tout d'être présent dans la rue, sur le terrain, dans l'action sociale, et puis dans l'action violente, puisque c'était
exactement. Dans l'autodéfense.
Dans l'autodéfense.
Philippe Rouillet. Ce qui me semble très intéressant dans votre livre, et qui m'a surpris par rapport à vos ouvrages habituels, c'est qu'il y a vraiment deux parties dans le livre. Il y a une première partie qui est plus l'histoire officielle, qui est écrite à la troisième personne, qui raconte vraiment la création du parti. Et puis, on peut croire que tout le livre va être comme ça. Et puis, tout d'un coup, ça bascule, j'allais dire, à la fin du premier quart. Et donc la deuxième partie est beaucoup plus grande, où là on est avec trois personnages qui sont dans la petite histoire qui côtoie la grande histoire. Et alors cette construction qui est très atypique, elle vous est venue tout de suite. Pourquoi vous avez choisi ça?
Oui, dès le début. Ça m'est venu dès le début parce que il était clair que je ne pouvais pas faire l'impasse, on va dire, des étapes de construction du parti. Donc les errances des deux fondateurs, voilà, le fait qu'ils participent à des réunions d'associations d'Afro-Américains, de nationalistes aussi, qui commençaient à se chercher, qui lisent certains livres de Mao notamment ou d'autres. Mais il est très clair que même si c'est un sujet très méconnu en Europe et particulièrement en France, de moins en moins, si j'en crois effectivement les lecteurs du roman, je ne voulais pas du tout raconter l'histoire de la naissance du parti. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, une fois que le parti existe, comment il vit et comment il survit, surtout face aux assauts du FBI et des flics. Et voilà, donc effectivement, la première partie est relativement courte, on l'a beaucoup travaillée. Dans le sens où on voulait qu'elle soit très elliptique et en même temps suffisamment riche, de manière à ce que le lecteur sente bien que les Black Panthers incarnent une fusion, on va dire, entre la pensée de Malcolm X et la pensée de Martin Luther King, en sachant que les deux nous sont présentés encore aujourd'hui sous des jours un petit peu mensongers, à savoir que Martin Luther King, on a commémoré récemment sa mort, et c'est d'ailleurs à ce sujet-là, j'aime bien rappeler que c'est la commémoration d'un assassinat et pas d'une mort. Il n'est pas tombé dans l'escalier, Martin Luther King, il faudrait quand même le rappeler, et que c'est vrai qu'on nous présente encore cette image de King qui aurait été un simple rêveur et de Malcolm X qui aurait toujours été un radical, un extrémiste, ce qui est faux concernant les deux, voilà. Donc effectivement, les Black Panthers incarnent une fusion, une synthèse des deux, et c'était ça qui m'intéressait. C'est pour ça que la première partie est relativement courte, car le vrai enjeu, justement, de Power, c'est comment ce parti s'est articulé, justement, à travers ces trois personnages, parce que quand même, le Black Panther Party est un phénomène national, voire international. Il y a eu des Black Panthers en Angleterre, en Inde, en Israël. C'est un sujet tellement vaste que j'avais à cœur justement de faire en sorte que le lecteur ressente l'ampleur et les contradictions de ce mouvement à travers trois villes, donc trois personnages. Une jeune militante adolescente à Philadelphie, un flic blanc à Los Angeles et un noir infiltré par le FBI à Chicago.
Alors justement, je voulais vous parler de ça. Au-delà des audaces de construction, il y a aussi cette multiplicité des regards. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, l'idée d'avoir un seul héros et de tout voir à travers lui était réductrice? Il fallait l'histoire des Black Panthers est suffisamment diverse et éclatée pour qu'il y ait besoin comme ça d'avoir la conjonction de trois regards différents.
C'était exactement ça. C'est-à-dire que je considère que quand un sujet est complexe, on peut pas le réduire, on va dire, à juste au prisme d'un seul personnage. Très vite, j'ai mesuré tout ce que pouvait m'apporter ce sujet et tout ce qui drainait aussi en ramifications. Hein, je veux dire, avec les Latinos, avec les Indiens qui s'organisaient à l'époque, avec les gays, avec les féministes. Donc, je me suis dit qu'il fallait que le lecteur ait une vision d'ensemble. Et justement, de manière à ne pas lui faire la leçon. Tout à l'heure, on en parlait par rapport au roman historique. Moi, je suis lecteur avant tout. Et ce qui m'insupporte quand je vais lire un roman qui est basé sur l'histoire, c'est quand on me fait un cours d'histoire. Voilà, moi, je suis d'abord là pour raconter une histoire, pour que les lecteurs passent un bon moment, qu'ils s'éclatent. Et si en refermant le bouquin, ils se disent, ben, en plus, je me suis régalé et j'ai appris des choses, moi, je suis très content de ça. Et effectivement, ce prisme de trois personnages permettait de donner une vision d'ensemble.
Mais alors, ces trois personnages, ils sont écrits à la première personne, chacun des trois. Alors, comment on fait? On se documente beaucoup, parce que vous n'êtes pas une jeune afro-américaine en 60. Oui. Et ça nécessite quand même une certaine documentation pour pouvoir dire « je ». Non, plus que la troisième personne, non?
Êtes-vous Madame Bovary?
Je ne sais pas, on verra après la bière. Non, écoutez, je sais pas trop comment répondre à cette question, parce que en fait, même si je sens bien qu'il y a énormément d'engouement par rapport à Power cette année, de plus en plus au fil des ans, mais j'avoue que cette fois-ci, je suis beaucoup plus suivi par les lecteurs. Mais on va dire que d'un point de vue personnel, j'ai pas l'impression de l'avoir écrit différemment que d'autres romans. Et du coup, non, j'ai juste essayé, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'être le plus universel possible dans mon traitement de chaque personnage, en sachant que mes lecteurs, à l'heure actuelle, étant donné que le roman n'est pas traduit, mes lecteurs sont des Français. Je me suis dit, il faut que justement que le personnage de Charline, qui a 16 ans, qui est afro-américaine dans un ghetto à Philadelphie, il faut que ça parle aux Français blancs d'aujourd'hui qui ne vivent pas dans ces conditions-là. Or, moi, je travaille depuis 10 ans sur l'écriture, parce que j'écris depuis 17 ans, je suis publié depuis 10 ans. J'essaie toujours de trouver ce qui peut rendre un roman justement universel et toucher tout le monde. Quand j'écris sur l'Australie, bienvenue à Cotton's Warwick, j'écris sur la solitude des gens qui vivent reclus. Mais je veux dire, cette solitude-là, elle peut exister au fin fond de, je sais pas, de la Creuse, ou dans le Nord, ou à Lille, ou voilà, ou dans certaines contrées, voilà, où on peut observer beaucoup de chômage. Donc j'essaye toujours de donner une portée contemporaine le plus proche possible. Donc en fait, la question de la première personne dans le traitement des personnages ne m'a pas autant travaillé que ça. J'ai beaucoup relu, beaucoup travaillé le texte, mais voilà, c'était assez naturel pour moi.
Scorpioman, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist Black Panther ce soir dans Mauvais Genre, qui reçoit Michael Mention pour Power aux éditions Stéphane Marsan. Alors effectivement, on assiste à la naissance, à l'organisation, à la structuration, à la diffusion et à l'amplification du message et de la violence de ce mouvement du Black Panther Party. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand ils sont en confrontation. Et là, on n'est plus uniquement... Il y a des moments violents, ultra-violents, qui sont des moments d'assaut, qui sont des moments de guérilla urbaine authentique, où là, l'État américain met les pouces et fait ce qu'il faut de manière à avoir le dessus. Donc il y a vraiment des scènes de guerre. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les moments de confrontation où les choses se retiennent et où l'eau frémit sans déborder. Vous voyez, où ça, on n'est pas encore dans l'explosion. Et là, j'imagine que c'est là où le travail du romancier est peut-être le plus difficile, c'est de gérer le jeu des regards plus que de gérer le déferlement des coups de flingue.
Ce sont les moments qui m'ont le plus intéressé. Disons que lorsque je me suis documenté, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez les Panthères, c'est qu'ils ont eu l'intelligence très vite de se dire « si on rentre dans l'art des flics racistes, on va s'en prendre plein la gueule et on va encore passer pour des sauvages, on aura les médias contre nous, le gouvernement ». Donc en fait, c'est des gens qui ont très vite compris qu'il fallait contourner la loi et qu'il fallait quelque part être plus intelligent que ceux d'en face. Et c'est pour ça que quand les Panthères patrouillaient dans les ghettos la nuit avec un flingue dans une main, un livre de droit dans l'autre, très vite j'ai vu l'image. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ok, c'est bon, ça c'est pour moi, je vais y aller. Parce que déjà, je trouve que voilà, il y a du panache. Et en même temps, je trouve ça très, très fin, parce que c'est une manière d'aller surveiller les flics, de leur dire, faites votre travail si vous voulez contrôler des jeunes dans la rue. Par contre, une fois que vous l'avez contrôlé et qu'il n'y a pas de souci, ben, vous pouvez le libérer. Donc voilà, il n'y a pas à sticoter le jeune, à lui filer des baffes et tout ça. Et effectivement, il y a eu énormément de tensions comme ça à l'attente, qui fait que d'ailleurs, les flics un petit peu partout, à Oakland, à New York et ailleurs, et jusqu'au gouvernement, personne ne savait comment, quelque part, appréhender ce nouveau mouvement. La question, c'était de savoir, est-ce qu'ils sont violents? Ben non, ils nous ont pas tiré dessus. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut les contrôler? Ben non, on peut pas les contrôler parce qu'ils sont organisés. Et je pense que les Panthères, leur première intelligence, ça a été effectivement de se responsabiliser face aux autorités et de responsabiliser les autorités par rapport à la loi.
Ça y est, au loin, un véhicule de police. Deux flics sont dehors, l'un fouille un noir, l'autre examine son portefeuille avec sa lampe. Bobby, Artie et Huey éteignent leur phare, s'arrêtent sans couper le contact, s'adressent chacun à leur groupe. 3 mètres, et les flingues bien en vue. Ok. Un regard dans le rétro intérieur et les portières s'ouvrent. Après tant de gestation, le Black Panther Party for Self-Defense se déploie enfin dans les rues d'Oakland. Veste en cuir, béret noir, pull noir, pantalon noir, chaussures noires. Pistolet dans une main, livre de droit dans l'autre. Sherman, le plus costaud, porte le magnéto en bandoulière. Les portières claquent, les moteurs ronronnent et le groupe avance dans l'obscurité. C'est l'hiver et pourtant, c'est l'été, le plus chaud jamais enregistré sur la côte ouest. La saison de ces nouveaux justiciers fait de griffes et d'acier. Hold on, I'm coming. Tandis qu'ils approchent, les flics asticotent leur proie, la bousculent, la plaquent violemment contre le capot. Scène du quotidien, épiée par des riverains craintifs à leurs fenêtres. Encore quelques secondes et cette fatalité sera balayée par les Black Panthers. Nerveux, mais confiants. Rien à craindre, rien à perdre, tout à accomplir.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait de Power de Michael Mention, notre invité de ce soir à Mauvais Genre sur France Culture, Sixtine Audebert.
Bon, alors moi je reviens un petit peu à mon dada puisque vous avez choisi des jeunes, vous mettez en scène des jeunes dans ce roman, donc on voit bien finalement l'interprétation assez caractéristique de ce qu'on appelle les sous-cultures, c'est-à-dire entre la mythologie de la radicalité, ici un goût pour des formes extrêmes du meurtre, la drogue, la violence de manière plus générale, et d'autre part une culture de consommation et de divertissement puisque vous citez abondamment donc la musique mais aussi les produits. Les marques Coca, Budweiser, tout ça, et évidemment derrière l'amitié. Donc une interpénétration entre la politique et le politique. Et j'ai l'impression que c'est de fait quelque chose qui correspond à votre esthétique en général dans ce roman. Alors est-ce que vous pouvez nous dire à quel point ça, poétiquement, c'est ce qui vous correspond en fait?
Bon, c'est un souci. Je suis désolé, je vais être bassement écrivain, mais ça relève de la cuisine d'auteur, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on a la prétention d'écrire sur une époque particulière, on se doit d'avoir un minimum de documentation, et pas forcément une documentation historique, mais une documentation du quotidien par les produits de l'époque. Lorsque je cite Budweiser, Kellogg's ou autre, c'est pas juste pour les citer. Je me souviens d'un passage qui c'est au tout début où il y a les deux futurs fondateurs du parti qui regardent la télé dans une vitrine, puisque personne n'a les moyens d'avoir une télé chez lui. Et il regarde la télé et je dis que le rêve américain fait sa pub de Budweiser à Kellogg. C'est-à-dire que c'est bon, bien sûr qu'il y a ce côté du quotidien, consommation du quotidien, mais c'est pour montrer aussi en quoi à l'époque l'Amérique fonctionnait, sur quels produits représentatifs, comme les marques de cigarettes ou autres.
Oui, vous parlez d'écriture. Souvent vos livres ressemble ou du moins semble inspiré par ceux de quelqu'un d'autre. Je pense à votre trilogie anglaise qui était évidemment un hommage à David Peace. Là, on pense tout de suite à Elroy. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu un peu le cliché d'un certain type de récit ou est-ce que cette cette construction, cette ampleur, le fait d'avoir des phrases courtes qui se succèdent et de mêler de manière aussi étroite la petite et la grande histoire, ça vous a été plus ou moins inspiré par lui ou pas plus que par d'autres?
Alors franchement non, parce que en fait Delroy, j'en ai lu que 5. Mon préféré c'est Le Grand Nulle Part. J'ai beaucoup plus lu, si vous voulez, du Giono ou du Camus ou du Philippe Murray, du Céline. Du Stephen King aussi, que voilà, que du Elroy, quand j'étais ado, même après à la fac, par rapport à David Peace, en fait, ce qui s'est passé. Alors voilà, je sais que ça surprend tout le monde, même François Guérif à l'époque, lorsque j'avais signé chez Rivage. J'ai découvert l'existence de David Peace quand j'étais aux trois quarts du premier volet de ma trilogie, que je me suis documenté. Et j'ai appris, et d'ailleurs à l'époque je l'ai très mal vécu, j'en ai fait limite une dépression, parce que j'ai appris qu'un type en Angleterre du cru, ou la native du Nord, justement, avait déjà consacré une tétralogie à l'affaire de l'éventreur. J'étais aux trois quarts de mon roman, et je me suis dit, oh non, c'est pas possible, je suis vraiment maudit. Et je me suis dit, bon ben tant pis, je vais le finir, de toute façon, parce que voilà, j'avais acheté ses livres, j'ai commencé à lire son premier, en 1974, et très vite j'ai vu que Peace avait un traitement, bon déjà j'ai mesuré justement l'ampleur de son talent, ça m'a bien recadré, et ensuite... mais c'est bien, justement, il faut des fois. Et oui, j'ai pu voir à quel point il avait un traitement très 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 dur, très poisseux, justement, notamment de la police. Or moi, j'ai toujours veillé à mettre de l'humanité dans mes romans, à ce que mes personnages puissent faire partie d'un corps de métier peut-être malsain ou corrompu, mais qu'en tout cas il y ait pas mal d'entraide, pas mal d'empathie, pas mal d'humanité. Et donc je me suis dit, ok, donc en fait lui, son axe est très poisseux, moi ça va être plutôt un livre sur l'amertume, sur la survie de certains personnages dans une époque en crise. Donc David Peace n'a pas été une influence. C'est sûr qu'après, suite au premier volet justement, Saletant pour le pays, j'ai eu l'occasion effectivement de, voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. D'ailleurs, il était très content qu'une autre personne s'intéresse au sujet. Ça va, j'ai eu l'aval du maître. Et voilà. Mais non, je fonctionne pas. Enfin, ou alors à ce moment-là, disons que mes influences sont plus cinématographique. Je me rends compte au fil des ans qu'en termes de cinéma, j'ai deux réalisateurs qui m'accompagnent de plus en plus. Ce sont Richard Fleischer, dont on ne parle jamais. Richard Fleischer. Non, mais Richard Fleischer, c'est vrai que voilà, si on peut en parler très très rapidement, Richard Fleischer n'était pas du tout un Kubrick ou un Terrence Malick, mais pour moi, c'était plus ça. C'était un artisan de luxe qui se renouvelait à chaque film. Voilà, il a fait Soleil Vert. Il a fait 20 000 sous les mers, il a fait Les Flics ne dorment pas la nuit. Et voilà, et j'aime beaucoup cette certaine forme de divertissement, mais au sens noble du terme, un divertissement qui fait réfléchir. Et un autre cinéaste, évidemment, très différent, Scorsese, voilà, dont l'influence est très, très présente dans Power. Donc voilà. Mais par rapport à Elroy, alors justement, non, parce que même si j'aime beaucoup, par exemple, donc je citais Le Grand Nulle Part, ou un autre que j'aime beaucoup, deux autres, Le Dahlia Noir et Un Tueur sur la Route, je trouve, enfin disons que par moment, disons que je préfère lire Elroy qu'écrire comme lui, ou essayer d'écrire comme lui. Pour moi, c'est un peu trop des fois nébuleux, un peu trop touffu, et je revendique une certaine simplicité dans mes romans. Je trouve que le sujet justement des Black Panthers est tellement nébuleux que voilà, que ça me semblait logique d'avoir un traitement très épuré, déjà dans l'écriture aussi, de pas en faire des caisses, et justement parce que je pense qu'il faut veiller à ce qu'il y ait un équilibre quand on écrit, c'est-à-dire en fonction de certains sujets. Si l'écriture est tout aussi ampoulée que le sujet, ça peut être très vite indigeste. Donc voilà, moi j'essaye toujours de créer un certain ping-pong dans le traitement. Je veille aussi à ce qu'il y ait beaucoup d'humour. Il n'y a pas beaucoup d'Elroy chez Humour. Il y a
l'humour chez Elroy.
Inversement. Et voilà. C'est de la phrase. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Moi, c'est très important toujours qu'il y ait un petit peu, justement, de légèreté. Le roman noir permet ça, c'est-à-dire de traiter la gravité sans se prendre au sérieux. J'aime bien ça. Et voilà.
Michael Mention, il y a un mot qui revient, qui est peut-être le mot le plus emblématique du roman, c'est pig. Porc, à la fois parce que c'est le mot qui sert quand on est au Black Panther pour caractériser toute forme, tout représentant de l'ordre et de l'autorité de l'Amérique blanche. Donc le pig est omniprésent, c'est le flic. Alors les flics sont là dans la rue puisque c'est leur boulot d'être là. Mais en même temps, ils sont là dès que le Black Panther agit, ils sont là en tant que force de contrôle et de répression. Et puis pig, c'est également les mots qui étaient inscrits sur les murs du Cielo Drive, de la villa de Cielo Drive, où ont été assassinés par les membres de la Manson Family. Daly, Sharon Tate et ses amis. Donc c'est un grand roman autour de la piguitune, si j'ose dire, sur quel est le port. On est tous le port de quelqu'un d'autre. Exactement. Alors effectivement, il y a le dégoût, le rejet, l'exécration de l'Amérique blanche, WASP, White Protestant Anglo-Saxon, par les Noirs américains, mais il y a en même temps, vous mettez en scène le personnage de Neil, qui est un flic, qui commence d'abord par être en compréhension, en empathie, en solidarité, et puis qui bascule dans une sorte de racisme hallucinatoire, et là, le pic, ça devient le noir lui-même. Donc il y a toujours cette espèce de bipolarité, comme ça, il y a cette espèce de vision de tension permanente autour d'un mot.
Oui, mais c'est aussi parce que j'avais à cœur, quelque part, de signifier l'Amérique de l'époque à travers trois personnages. Disons que Charlene, Tyrone et Neil incarnent chacun à leur manière. Bon, déjà, ils font chacun l'expérience du pouvoir et c'est souvent à leur dépens. C'est du roman noir, donc voilà. Mais c'est vrai que aussi, disons que tous les visages de l'Amérique de l'époque, une Amérique très très divisée, schizophrène, qui a toujours été une terre d'accueil pour les étrangers, mais qui en même temps a peur de l'étranger aussi. Et effectivement, par rapport à Neil, ce qui m'intéressait chez lui, c'est que c'est un personnage qui évolue dans un corps de métier qui à l'époque était largement raciste, qui fonctionnait à l'impunité totale, qui pouvait frapper
était raciste
ou tuer des
parce
noirs.
Que les individus étaient racistes, mais étaient racistes parce que la loi les poussait à être racistes.
Oh ben c'est un petit peu tout. Hein. En Californie, par exemple, lorsque le gouverneur de l'époque, un certain Ronald R. disait qu'un propriétaire blanc avait parfaitement le droit, s'il le voulait, de refuser effectivement de louer son logement à des noirs, et voilà que c'était son droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les plus hautes instances tiennent un discours raciste, ouvertement raciste, oui, je pense que les flics du quotidien de l'époque n'avaient aucun scrupule à se permettre certains gestes et certaines violences. Voilà. Obscène. Mais par contre, on va dire que oui, il y avait un certain laxisme, on va dire des supérieurs de la police de l'époque. Et Neil, c'est un personnage que je présente en fait qui est un idéaliste, qui a cru en Kennedy. Qui vote, qui croit en Dieu, il a des origines irlandaises, il est reconnaissant envers cette Amérique qui a pu accueillir ses aïeux, et c'est quelqu'un qui croit aussi en une certaine Amérique, et c'est quelqu'un qui refuse au quotidien le racisme et la violence ambiante. Or, mes deux obsessions depuis 10 ans, depuis que j'écris, sont l'identité d'une part, et on va dire l'influence de l'environnement sur l'individu. Et Neil incarne vraiment ce deuxième thème, à savoir que c'est quelqu'un qui, au fil des années, c'est quelqu'un qui va se faire gangréner par l'époque, parce que c'est quelqu'un qui croit à l'amour, qui croit à la paix, qui croit au dialogue. Or, dès qu'il se lève le matin, il allume sa radio, il entend parler du Vietnam, il entend parler de mort, il entend parler d'affrontements au quotidien entre divers gangs ou divers groupuscules. Et c'est quelqu'un qui est en rétention pendant un certain nombre de pages, qui résiste à la tentation du racisme, qui cherche toujours à comprendre. Il voit bien que les panthères, ils sont ambigus, mais en même temps, il sait qu'ils ne sont pas aussi dangereux que certains gangs. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il bascule, parce que l'époque est trop forte et la pression est trop forte. Et ça m'intéressait vraiment de travailler sur ça, sur cette notion de violence, pour en finir avec ce truc de bien et de mal. Moi, j'ai jamais cru à ça. Et les autres personnages, c'est pareil aussi.
Sixtine Aubert.
En fait, je vous écoutais parler, ça m'est venu. En fait, c'est un grand roman choral parce que c'est un grand roman sur le médiatique et donc sur les différents discours stéréotypés qui sont produits de part et d'autre du même mot, par exemple pigs. Et c'est un roman sur l'accélération de l'histoire quand elle est confrontée à la multiplicité des voix et des discours et quand elle n'est plus finalement une histoire unique écrite de manière idéologique, mais quand le grand récit vole un peu en éclat. Et c'est ça qui est remarquable, c'est cette production...
Merci, j'ai bien fait de venir, c'est cool.
Bah oui, vous
pourriez aussi... Moi, ce qui me semble très intéressant, je suis évidemment d'accord avec Sixtine, c'est que, au-delà de tout ça, j'ai l'impression que, même au-delà des Black Panther, j'ai l'impression que c'est un roman sur l'époque. Et que c'est, vous parliez du cinéma tout à l'heure, vous en parlez aussi dans le, c'est moins prégnant que la musique, mais enfin, il y a un moment, il y a des rendez-vous au cinéma, ça vous permet quand même de citer, La Horde Sauvage, Le Point de Non-Retour, dont on suit des extraits, La Planète des Singes, J'y étais une fois dans l'Ouest, Shaft, bien sûr, Dirty
c'est
Harry. Parce que, on parle de Sharon Tate, on parle de Zodiac, le tueur en série, il y a tout un portrait des années 70, et je pense que, enfin, de la fin des années 60, tout début des années 70, je crois que c'est une période qui vous tient à cœur et qu'en fait vous faites votre grand roman sur cette période-là, non ?
À quelle mention ?
Bien, écoutez, oui, c'est vrai que pour des raisons très personnelles, oui, je suis très lié à cette décennie, effectivement, parce que voilà, depuis l'âge de 10 ans, j'écoute Deep Purple, AC/DC, j'ai eu la chance de voir très vite des films comme Deliverance, ou Le Parrain, ou des films comme ça, Lee Mervyn, effectivement, par rapport au point de non-retour de John Boorman. J'adore ce film, voilà, c'est un film qui est daté, mais pas dépassé, la nuance s'impose.
Tout à fait.
Et voilà, donc, effectivement, j'avais déjà traité cette période dans Saletan pour le pays, dans Fils de Sam. Là, je voulais mettre un point final sur cette période-là, et on va dire que le sujet des Black Panthers m'a permis d'aborder toutes ces questions-là culturelles, politiques, sociologiques. Mais je reviens deux minutes par rapport à ce que vous disiez. J'ai le sentiment, malgré tout, de n'avoir jamais autant écrit sur la France d'aujourd'hui qu'en écrivant Power, parce que justement sur la multiplicité des discours et sur les nuances que je voulais apporter, moi j'en ai un peu marre au quotidien d'entendre dire que quand on est par exemple un manifestant de gauche, on est forcément un extrémiste, d'entendre dire que quand on est flic, on est forcément facho, ou d'entendre dire que quand on est un patron, on est forcément ceci ou cela. J'observe plein de choses au quotidien, et je me rends compte, comme vous, que la vie est beaucoup plus subtile que ça. Il y a des patrons qui exploitent, malheureusement il y en a beaucoup plus, il y a des flics racistes aussi, il y a des bavures, il y a aussi des militants qui commettent des choses qui, à mon sens, peuvent être largement critiquées. Mais je voulais justement, à travers les trois personnages, faire apparaître toutes les nuances pour essayer de montrer que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et que c'est pas parce qu'on devient terroriste qu'on est forcément un diable, sans excuser les actes, et je parle de terrorisme à l'époque, parce que bien sûr la question actuelle est beaucoup plus complexe. Et par rapport à la police aussi, c'est ça, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, si les flics à l'époque ont pu se permettre effectivement de frapper pas mal d'Afro-Américains, c'était pas forcément parce qu'ils étaient des démons ou des diables caractérisés, mais aussi parce qu'il y avait une certaine permissivité des autorités, de leurs supérieurs. Et c'est ces questions-là, moi, qui m'intéressent.
Power de Michael Mention, c'est aux éditions Stéphane Marsan. De recommandations avant que nous rencontrions de Christophe Beer, la première de Greg Hiles aux éditions Actes Sud chez Actes Noir, Hubert Prolongeau, Brasier Noir, énorme brasier,
voilà,
premier volet d'une énorme trilogie.
Énorme brasier qui a provoqué un soupçon de découragement en moi quand votre voix d'airain m'a demandé de le lire parce qu'il y avait des thèmes en commun avec le livre de Michael et que je me suis retrouvé avec un pavé de 1045 pages écrit par quelqu'un dont je n'avais jamais entendu.
Le voyage vaut d'être fait.
Et je suis totalement repentant. D'abord parce que le fait que je n'ai pas entendu ce nom est la preuve de mon inculture, ce garçon ayant déjà écrit une quinzaine de romans, dont un certain nombre publiés en France, mais sans éclat extrême, ou du moins dont on a peu parlé, Passion mortelle, Une petite île sans histoire, Phoenix Thriller, son tout premier, qui était sur Rudolf Hess, et que c'est un roman qui justifie du début à la fin son ampleur. C'est une espèce de fresque, c'en est la première partie, ça sera une trilogie. Et fresque qui plonge dans la ville de Natchez entre aujourd'hui et l'époque des années 60 et du Ku Klux Klan triomphant. Le héros est le maire de Natchez. Son père est accusé d'avoir assassiné une infirmière noire, aujourd'hui octogénaire, mais qui à l'époque a été impliquée dans un état d'affaires. Et en fait, ce fils, en essayant de défendre son père, va être confronté à une vérité très trouble qui met au jour les pratiques assez stupéfiante d'un groupe de fascistes racistes américains liés au Ku Klux Klan qui s'appelle dans le livre Les Aigles Bicéphales. Donc on plonge dans ce monde qu'a déjà évoqué le film Mississippi Burning, qu'ont déjà évoqué beaucoup de choses. Et en même temps, derrière, il y a ce thème second de la paternité, du rapport filial, et est-ce qu'on peut garder pour son père un amour aveugle, ou est-ce qu'il faut accepter que cet amour se déchire à une vérité qui est souvent souvent difficile. C'est un roman incroyable de densité, construit par petites touches, mélange parfait de petites et grandes histoires, et où, ce qui est intéressant à comparer avec celui de Michael Mention, l'écriture est à la fois plus apaisée, moins rocailleuse, donc il y a une manière différente d'aborder les mêmes choses. L'horreur y est plus étale, il y a à la fois pénètre plus et en même temps est moins brutal. C'est donc deux manières d'évoquer une époque qui sont littérairement assez différentes, même si sur le fond elles se rejoignent. Et c'est passionnant, et ne vous laissez surtout pas, comme je l'ai fait de manière honteuse, effrayé un peu par l'ampleur du livre.
Au contraire, on pousse au crime. Brasier Noir de Greg Hiles, c'est chez Actes Sud dans la collection Actes Noir. très rapidement, Sixtine, plus ou moins une mention
fatal.fr, fatal au pluriel, hein, derrière ce titre hommage au roman de Jean-Patrick Manchette, vous trouverez finalement le site d'un archiviste scrupuleux du muscle et de la gâchette féminin, Antoine Michel. Donc c'est un site consacré à l'imagerie de la femme armée dans la culture populaire, sur lequel vous trouverez posters, clichés, couvertures de pulp, de manga, mettant à l'honneur une femme, et non pas une femme puissante, Antoine Michel insiste, puisque cela suppose l'existence d'une femme faible et d'un homme fort, donc autrement dit, voilà, mais une femme armée, une femme victorieuse, tout étant classé par type d'armement, et alors la vertige, extase du fétichiste, arme à feu, arme du futur, arme de lancer, arme explosive, arme blanche, et mille autres curiosités. Et le site se veut alors un havre pour les Amazones et les White Girls en tout genre, hein, puisque je choisis à dessein le terme de havre, puisqu'il s'agit d'une démarche assez proche de celle d'un autre grand homme de l'émission, Noël Burch. Antoine Michel développe une posture critique sur la culture contemporaine à partir de son fétichisme, et son vœu, c'est saturer l'espace de la page de représentation de femmes armées jusqu'à faire éprouver le malaise à l'œil masculin.
Un vrai régal. Donc le site d'Antoine Michel, tous les renseignements sur celui de Mauvais Jeu. On termine cette émission, bien évidemment, avec le camarade Christophe Beer.
Pêcher par le silence alors qu'il nous faut protester transforme les hommes en lâches. La race humaine s'est élevée par la protestation. Cet extrait de 1914 de la poétesse Ella Wheeler Wilcox en exergue du magnifique Proteste, édité par Le Chêne, évoque une jeunesse internationale en colère, du milieu des années 60 jusqu'au retrait des troupes américaines au Vietnam. Au confort prétendument épanouissant de la société de consommation, au recrutement universitaire favorisant les inégalités, à l'exploitation de la classe ouvrière, au contrôle des médias, à la ségrégation raciale, à l'ordre moral inchangé, à la domination patriarcale, à l'impérialisme militaire, ouvriers et étudiants, artistes et intellectuels choisissent le vacarme des luttes. La sérigraphie entre dans l'arène, révolution graphique qui ne nécessite qu'un cadre en bois tendu d'un écran en nylon. Excluant les affiches de propagande des gouvernements et des partis, Michaël Lelouch a sélectionné près de 400 documents produits par la société civile, création spontanée qui exprime la vivacité de cette nouvelle arme qui fournit 100 exemplaires à l'heure et s'érige en contre-pouvoir des mensonges d'État, placardés la nuit sur les murs des démocraties malades. À Paris, dans l'école des Beaux-Arts, l'atelier populaire vit 45 jours et nuits de plein régime, suscitant d'autres ateliers dans toute la France. En rupture avec les canons esthétiques de l'affiche traditionnelle, la sérigraphie est un matériel rugueux, exécuté dans l'urgence. Les couleurs sont criardes, issues de la peinture de carrosserie et de la laque automobile. Les encres bavent, car le temps de séchage est trop bref. Le trait est épais et le texte court pour être lisible. Un art spontané de guérilla urbaine, insolent, sans fioritures. Les fautes d'orthographe attestent de l'urgence et de l'artisanat des ripostes. En moins de 24 heures, la charge gaulliste contre la chienlit retourne à l'envoyeur, ridiculisé au petit matin par un slogan célèbre « La chienlit, c'est lui ». Le poing brandi, facile à figurer, devient le symbole fort et récurrent de toutes les luttes. Pour le Secours Rouge, fondé en 1970, aidant à la défense juridique des victimes du pouvoir, Willem dessine une terrifiante affiche, prémonitoire d'une police spéciale qui énucléait la jeunesse, juste avant le tir au lance-grenade, défigurant un militant normalien de 20 ans. Nous en sommes toujours au même point de rupture. Mai 68 ne serait-il donc plus qu'un thème de collection ? Gardons-nous d'en faire un objet muséal et pop. Ce livre, concentré impressionnant de révolte, avec l'autogestion et la liberté en ligne d'horizon, reste d'actualité. Michaël Lelouch nous invite à reprendre la lutte.
Merci Christophe Beer, merci Michaël Mention d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre.
Merci beaucoup, c'était très sympa.
Je rappelle les conseils hautement évidemment Power, donc votre roman sur le Black Panther Party, publié aux éditions Stéphane Marsan, de Greg Hiles, il faut lire le monumental Brasier Noir chez Actes Sud dans la collection Actes Noir, et puis Fatal au pluriel.fr d'Antoine Michel, tous les renseignements sur notre site. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Philippe Mercher, Serge Boutata, Claire Martin-Dugard, Sixtine Aubert, Philippe Philippe Rouillet, Hubert Prolongeau, Christophe Bir et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission tout en spectre et fantôme. On parlera avec Laurence Equilbé et David Bobet de La Nonne Sanglante de Gounod qui a réapparaît après un siècle et demi d'oubli à l'Opéra Comique. Et on sera bien sûr avec notre chasseur de fantômes numéro 1, Philippe Baudouin. D'ici là, bonne nuit à tous sur France Culture avec les Masterclass. Bonsoir.